Des précisions sur la violente agression d'un militaire en civil lundi dernier à Nouméa. 4 hommes ont été arrêtés, indique le procureur de la République. La construction est aussi un terrain d'innovation. Le comité de gestion du fonds créé en 2022 pour l'amélioration et le développement de la qualité de la construction s'est réuni pour la première fois ce matin. À l'étranger, des émissaires américains en route pour Moscou. Ils vont présenter le plan de cesser le feu à Vladimir Poutine. En métropole, nouvelle polémique suscitée par LFI, une affiche au relent et aux stéréotypes antisémites pour appeler à manifester contre les idées d'extrême droite. Et puis en football, fin de parcours pour Lille en Ligue des Champions, éliminé par le Borussia Dortmund en 8e de finale ce matin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'économie calédonienne est dans une situation tendue, souligne la CCI dans sa dernière enquête menée auprès de ses adhérents sur l'évaluation de l'impact des émeutes du mois de mai 2024. Elle est profondément affectée et confrontée à une absence de perspective, note de son côté l'IOM dans sa note conjoncturelle du dernier trimestre 2024. Une situation dont nous parlerons dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu juste à la fin de ce journal. Nous serons en compagnie de David Guyenne, le président de la CCI, de Stéphane Renaud, directeur de l'Institut Quid Novi, qui a réalisé l'enquête pour la Chambre de commerce et d'industrie, de Fabrice Dufresne, le directeur de l'IOM, et de Christophe Dautieux, co-gérant de l'entreprise de BTP ACTB. Des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu à retrouver donc dès la fin de ce journal. C'est une information que nous vous annoncions dès 6h ce matin. Manuel Valls décale de quelques jours sa prochaine visite en Nouvelle-Calédonie. Le ministre des Outre-mer doit se rendre aux Antilles en fin de semaine. Il y sera du 14 au 19 mars. En conséquence, il reporte de quelques jours son déplacement sur le territoire. Manuel Valls arrivera le 29 mars en Nouvelle-Calédonie pour un déplacement de 4 jours. Il restera en principe jusqu'au 1er avril. Et puis autre information au chapitre justice. Cette fois-ci, 4 hommes ont été arrêtés après la violente agression d'un militaire à Nouméa vendredi dernier. Les prévenus seront présentés au tribunal correctionnel le 6 mai prochain, indique le procureur de la République dans un communiqué, Lionel Sabot.
Oui, vendredi dernier, vers 21h, un homme déclare avoir été agressé en plein centre-ville. Plusieurs individus lui ont volé ses chaussures, son portefeuille et un téléphone après lui avoir porté des coups de pied, apprend-on dans ce communiqué. Transporté à l'hôpital, la victime présentait plusieurs fractures au niveau du visage et de la bouche avec des dents cassées, justifiant un nombre encore indéterminé de jours d'ITT. C'est grâce à l'exploitation des vidéosurveillances que les auteurs des faits ont pu être interpellés, précise le procureur de la République, Yves Dupas. Les 4 prévenus compareront donc, vous le disiez, devant le tribunal correctionnel le 6 mai prochain. En attendant, 2 prévenus présentant des antécédents judiciaires ont été placés en détention provisoire. Les 2 autres ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur jugement.
C'est aujourd'hui la journée mondiale du rein. Sur le territoire, 860 patients sont atteints d'insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire qu'ils doivent être dialysés ou recevoir une greffe. À l'occasion de cette journée, plusieurs associations sont mobilisées sur le terrain pour faire de la prévention, Nicolas Legrand.
Oui, la Fédération internationale des fondations du rein a choisi pour thème cette année la détection précoce protège la santé des reins. Et c'est bien dans cet esprit que les membres de l'Association des insuffisants rénaux et transplantés de Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'Association des diabétiques de Nouvelle-Calédonie et le réseau de l'insuffisance rénale ont installé un stand dans la galerie commerciale du Dimbéa Mall ce matin. En quelques minutes seulement, les clients se font dépister. Prise de tension, dextro pour connaître le taux de sucre dans le sang. Et si les résultats ne sont pas bons, un test de créatinine pour connaître l'état de santé des reins.
Je vais vous prendre la tension.
Quand on arrive à un certain âge, il faut effectivement savoir en fait où on en est. Et là, l'opportunité, c'est que je rentre dans un magasin et je vois des personnes en fait pour tester. Et bien, à ma grande surprise, effectivement, il faut que je fasse un contrôle, alors que j'étais serein sur le côté diabète. Maintenant, avec le test que je viens de faire, effectivement, ça m'alerte un peu. Et il faut qu'on prenne au sérieux. Donc là, je vais faire un contrôle un peu plus approfondi.
48, ça fait haut.
Donc là, il faut aller chez le médecin.
Comme je suis arrivée, je voyais les dames, là, monsieur, ils étaient là. Puis je me suis dit, allez, je vais me dépister tout de suite. Alors je suis venue, je me suis présentée.
On va vous faire un petit dextro. Et on va voir le taux de sucre que vous avez dans le sang. Et 0,90 g, c'est très bien, madame. Vous n'avez pas de souci de diabète.
Comme je ne connais pas les maladies de reins, de diabétiques, c'est bon, il n'y a rien.
Soulagé ?
Oui.
Et la situation sociale et sanitaire cette année inquiète tout particulièrement ces associations. Certains Calédoniens n'ont en effet plus accès à des structures de soins de proximité, ne peuvent plus faire attention à leur alimentation et tout ça se ressent sur le terrain. Le nombre de patients admis en dialyse est en forte augmentation. Écoutez Christine Racoto-Arivello, présidente de l'association des insuffisants rénaux et transplantés de Nouvelle-Calédonie.
Ça m'inquiète beaucoup parce que leur santé va passer en second, malheureusement. Et ça m'inquiète parce que j'ai peur qu'on fait 25 ans en arrière, parce qu'on avait bien diminué le nombre de personnes qui rentraient en dialyse en urgence, avec de la prévention que depuis 2015 on fait sur le terrain et dans les écoles, on avait bien diminué. Mais là, j'ai entendu, il y a des chiffres assez alarmants, ceux qui rentrent en dialyse en terminale ces derniers temps.
Et la journée de dépistage se poursuit jusqu'à 17h au Dimbéamol au niveau du food court. C'est aussi, au-delà des tests, l'occasion de passer les messages habituels de prévention.
À Radio Rythme Bleu, 11h36.
La consommation d'électricité a baissé de 40% en 2024. Une chute inédite en raison du ralentissement de l'activité des métallurgistes, mais aussi sur la distribution publique en raison de la destruction d'entreprises et de la résiliation de contrats de particuliers. Enercal a présenté cette semaine le bilan de la consommation pour 2024 et les perspectives pour l'avenir. Jean-Gabriel Fagé était notre invité du matin à 7h30. Le directeur général d'Enercal nous a fait part des projets pour 2025.
On fait tout pour faire aboutir le projet de batterie, puisque c'est un facteur d'économie pour le système électrique et de poursuite des investissements dans le photovoltaïque. Et ça, c'est très important. On a des projets comme le déploiement d'une nouvelle génération de compteurs, parce que là encore, c'est une source d'économie, puisqu'il y a moins d'intervention de terrain, et puis une satisfaction de la clientèle à travers des factures sur index réel tous les mois. Donc ça, c'est aussi un projet. C'est des investissements, mais qui génèrent des économies dans des délais courts. On arrêtera la centrale de Népuy dans 2 ans. Ça aussi, c'est une source d'économie pour le système, dès que la batterie de Blue Paris sera en service. Donc voilà, tous nos efforts sont orientés vers des plans d'économie, des plans de performance.
Jean-Gabriel Fagé, le directeur général d'Enercal, était notre invité ce matin à 7h30. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre site internet. Et puis toujours à propos d'électricité, la réunion ce matin du Conseil économique, social et environnemental. Les conseillers ont examiné, sur saisine du président du gouvernement, un avant-projet de loi de pays portant réaffectation provisoire de la taxe sur l'électricité et un projet de délibération relatif au système électrique de Nouvelle-Calédonie. Atem Belagi est le président de la commission du développement économique, de la fiscalité et du budget au CESE.
Le principe des deux textes, c'était la suppression de la taxe dite soleil, qui a été mise en place par amendement à la fin de l'année donc 2024 et qui a posé pas mal de débats. Parce qu'elle met en cause un certain engagement du territoire vis-à-vis de ceux qui ont installé des installations photovoltaïques. Et donc c'était sa suppression dans le deuxième texte. Dans le premier texte, c'était pour remplacer donc cette recette-là, de affecter une partie de la taxe d'électricité qui s'appelle TE, au lieu de l'affecter à l'Agence Calédonienne d'Énergie, de l'affecter à Enercal, pour réduire le déficit du système électrique que subit sur sa trésorerie aujourd'hui Enercal.
Et sur les deux textes examinés ce matin, le CESE a rendu un avis favorable. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie souhaite encourager l'innovation dans le secteur de la construction. En 2022, un fonds pour l'amélioration et le développement de la qualité de la construction a été créé, l'AQC, et son comité de gestion s'est réuni pour la première fois ce matin, Charlotte Coulson.
Car la construction peut aussi être moteur d'innovation. C'est le leitmotiv de ce comité de gestion qui réunit plusieurs acteurs du BTP. Assis autour de la table ce matin, la FCBT, la FINC, la CPME, des bailleurs sociaux, des architectes, mais aussi des représentants du COSODA, car c'est justement une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance qui finance le fonds. Et pour présider cette équipe, Petelo Sao, membre du gouvernement en charge du secteur de la construction. Comme il l'explique, le fonds AQC a pour vocation de soutenir des porteurs de projets et notamment des propositions en lien avec des matériaux nouveaux.
L'innovation, elle va permettre de développer des acteurs locaux. C'est l'objectif de ce fonds AQC, c'est de soutenir des personnes qui ont des nouveaux procédés, des nouvelles façons de travailler, mais surtout de valoriser aussi des matériaux nouveaux. L'idée, c'est vraiment de développer des filières de matériaux nouveaux, de valorisation aussi de déchets qu'on a ici en Nouvelle-Calédonie et qui peuvent améliorer la qualité des constructions en Nouvelle-Calédonie. Je pense bien évidemment aussi à la valorisation des déchets comme la scorie, qu'on produit beaucoup ici en Nouvelle-Calédonie et qu'il faut valoriser pour développer des circuits courts, développer aussi un développement durable des constructions en Nouvelle-Calédonie et de l'amélioration de ces constructions.
Et le comité de gestion du fonds AQC se réunira tous les trimestres pour étudier les demandes de financement qui lui sont transmises.
En bref, les élus du Mont d'Or se réunissent ce soir pour un conseil municipal dominé par l'examen du budget primitif de la commune. C'est un budget de 5 milliards de francs qui avait été présenté le mois dernier lors du débat d'orientation budgétaire. Annoncé parmi les priorités, le soutien à l'économie et le maintien des aides sociales. Particularité de la collectivité, cette année, le budget devrait être établi sans recourir à l'emprunt. De son côté, l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie est réunie en ce moment à Bouloupari pour son assemblée générale. À l'ordre du jour, le bilan du déplacement du président de l'AFM, Pascal Vittori, à Paris en début d'année. L'économie et la reconstruction sont au cœur de cet AG avec un point sur le financement des communes et une présentation de la Banque des territoires. Le membre du gouvernement, Christopher Gigès, participe aussi à cette réunion pour évoquer la création d'un guichet unique reconstruction. Et puis le membre du gouvernement en charge du transport aérien domestique, Samuel Népéoun, est lui à Lifou, accompagné par la direction d'Aircal. Il s'agit d'une réunion d'information à destination de la population pour présenter le plan de transformation de la compagnie aérienne et son déménagement vers la Tontouta.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Justement, voici notre question du jour. Êtes-vous favorable au déplacement des vols Aircal de Magenta à Tontouta? Si vous y êtes favorable, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à la question d'hier, 75% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment qu'il faut instaurer de nouvelles restrictions sur la vente d'alcool sur le territoire. Ils sont 25% à être d'un avis contraire. 11h42, l'heure d'une première pause dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde. Et on verra que des émissaires américains sont en route pour Moscou après l'accord sur le cessez-le-feu entre les USA et l'Ukraine.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Tu étais où ?
Avec Max, à la maison.
Max ? Mais c'est qui Max ?
Max, la nouvelle plateforme incluse dans les offres Canal+. Tu sais, les contenus HBO, Warner Bros, DC, Harry Potter et bien plus encore. En ce moment, la formule découverte plus option Max est à seulement 1500 francs par mois, donc j'en ai profité.
1500 francs par mois ? Ah ouais, c'est génial !
Allez, viens, on va se mater Game of Thrones et ensuite on attaquera la nouvelle saison de The Last of Us.
Offre valable jusqu'au 30 avril pour tout nouvel abonnement de 24 mois à la formule découverte. Bénéficiez d'un tarif remis à 1500 francs par mois, plus option max, sans frais supplémentaires pendant 12 mois. Plus d'informations sur canalplus-calédonie.com.
Grande nouvelle! Nissan réouvre ses portes dans son nouveau showroom, toujours à la même adresse, chez Sidaps à Ducos. Laissez-vous séduire par nos modèles conçus pour répondre à tous vos besoins. Performance, confort, technologie, tout y est. Alors qu'attendez-vous? Venez vivre l'expérience Nissan chez Sidaps à Ducos.
RRB 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
L'actualité à l'étranger et des émissaires américains sont en route pour Moscou. Ils doivent transmettre à Vladimir Poutine les termes de l'accord sur le cessez-le-feu d'un mois négocié par les USA et l'Ukraine en Arabie Saoudite il y a deux jours. Les négociations vont donc peut-être s'accélérer. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Et c'est en tout cas ce qu'affirme Donald Trump, le président américain. S'est exprimé en fin d'après-midi au sujet de l'accord de cessez-le-feu négocié entre les États-Unis et l'Ukraine.
C'est à la Russie de jouer maintenant, mais nous entretenons de bonnes relations avec les deux parties. Des négociateurs se rendent en Russie au moment où l'on se parle, et j'espère que nous pourrons parvenir à un cessez-le-feu avec la Russie.
Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump sur les dossiers internationaux les plus sensibles, doit se rendre à Moscou dans la semaine, annonce ce soir la Maison-Blanche. On ne sait pas pour l'instant s'il fait partie de la délégation. Le Kremlin lui temporise. Aucune réponse à cette proposition de trêve. Pas même un mot de Vladimir Poutine. Il s'est pourtant exprimé publiquement il y a moins d'une heure. Prise de parole depuis la région russe de Koursk, dont il a ordonné la libération complète alors qu'elle est partiellement occupée par les forces ukrainiennes depuis août 2024. Les Russes ont repris une quinzaine de localités ces derniers jours et fait plus de 400 prisonniers ukrainiens. De quoi peser dans de futures négociations, et la perte territoriale est lourde de conséquences pour Kiev, qui perd ce qu'elle espérait être une monnaie d'échange face à Moscou.
Et pendant ce temps, Donald Trump poursuit sa politique protectionniste. Il a annoncé une hausse de 25% des droits de douane sur l'acier et sur l'aluminium. La Commission européenne, de son côté, promet des ripostes dès le 1er avril prochain. Barthélémy Philippe.
La présidente de la Commission européenne,
Ursula von der Leyen a fustigé dans la nuit les taxes américaines mauvaises pour les affaires et encore pire pour les consommateurs, a-t-elle prévenu. L'Europe compte riposter en deux temps. D'abord le 1er avril en réactivant les droits de douane sur les produits déjà visés en 2018 lors du premier mandat de Donald Trump. Ils vont toucher des produits symboliques comme les Harley Davidson, le bourbon ou les jeans, mais aussi des produits agricoles comme la viande, les céréales ou le soja, avec toutefois un impact quasi inexistant sur le portefeuille des consommateurs européens, explique Thomas Graffanino, expert commerce chez Sia Partners.
La majorité des produits aujourd'hui est produit sur le sol européen et les marques, même américaines, ne seront pas soumises à la hausse des droits de douane.
Le deuxième acte de la riposte mi-avril sera beaucoup plus massif. L'Union européenne prévoit de taxer des centaines de produits américains pour les renchérir de l'ordre de 26 milliards d'euros, l'équivalent de l'impact estimé sur les ventes d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Seule certitude à ce stade, les importations stratégiques comme le gaz naturel et le pétrole américain ne seront pas touchées par ces droits de douane.
L'actualité en métropole avec une double polémique suscitée par la France insoumise. La première sous forme d'une affiche pour appeler à manifester contre ce que LFI appelle les idées d'extrême droite. Affiche au relent antisémite comme aux pires heures du siècle dernier, sur laquelle on voit le visage de Cyril Hanouna caricaturé. L'animateur dénonce l'usage des stéréotypes antisémites.
Ah non, mais quand j'ai vu l'affiche, déjà, j'y croyais pas. Je pensais que c'était une blague. Je pensais que c'était Logographi. Et en fait, non, c'était une vraie image. Après, j'ai vu qu'elle avait commencé à tourner. Ce qui est extrêmement gênant là-dedans, c'est qu'ils ont caricaturé mon visage. Donc, on sait à quelle fin ils l'ont fait. Et ça devient extrêmement, quand même, embarrassant ce qui se passe au niveau de la LFI. Ils vont de plus en plus loin. Ils sont très dangereux.
Les avocates de Cyril Hanouna vont introduire un recours en justice contre cette affiche qui, depuis cette polémique, a été retirée de tous les supports de la France insoumise. L'autre provocation du parti de Jean-Luc Mélenchon, c'est à l'Assemblée nationale où les parlementaires du groupe ont invité avec tous les honneurs un collectif proche de la mouvance islamiste. Il s'agit en fait d'une branche de l'ancien CCIF, dissous en 2020 par Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur. Une invitation qui a suscité de très nombreuses réactions indignées. Alexis de la Fléchère pour Europe 1.
Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dénonce une provocation de la part de la France insoumise, car le CCIF avait contribué à l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020. De son côté, le groupe d'Éric Ciotti a demandé l'interdiction de cette table ronde à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. En vain, alors la députée UDR, Anan Mansouri, dénonce cette impuissance.
Ce que je constate malheureusement, c'est que le bureau de l'Assemblée nationale aujourd'hui est gangréné de membres de la France insoumise, ce qui complique effectivement les procédures pour faire annuler ce type d'événement-là. Je crois que quand on est présidente de l'Assemblée nationale, on devrait pouvoir faire respecter les lois de la République et ne pas inviter des associations qui se revendiquent islamistes.
Dans son bon droit, Anan Mansouri s'est donc rendu à cette table ronde avant d'être mise à la porte par les députés de la France insoumise.
Allez les racistes, allez.
La presse était également tenue à l'écart. Il est donc impossible de connaître les propos relayés par le CCIE lors de cette table ronde à l'Assemblée nationale.
L'actualité en métropole, c'est aussi ce coup de filet réalisé par les policiers de la BRI de Versailles. 10 malfaiteurs ont été interpellés en début de semaine, c'était lundi. Ils projetaient d'enlever et de séquestrer un millionnaire belge. Coup de filet qui est le résultat de plusieurs heures de traque que raconte William Molinier.
Tout a commencé samedi dernier. Les policiers de la BRI de Versailles obtiennent un tuyau, comme on dit, une information selon laquelle une équipe de malfaiteurs s'apprêterait à kidnapper et séquestrer un multimillionnaire en banlieue de Bruxelles. La moitié de la brigade se met sur le pont et traque sans relâche tout au long du week-end un véhicule suspect qui se rend en direction de la capitale belge. Les malfaiteurs font un premier repérage dans la nuit de dimanche à lundi dans un quartier résidentiel de la banlieue sud. Les unités spéciales fédérales se prépositionnent. Le top interpellation est donné lundi matin à 5h40, juste avant le passage à l'acte. Une villa louée par les voyous est perquisitionnée. À l'intérieur, une salle aménagée ainsi que des instruments de torture sont retrouvés. 8 malfaiteurs, tous français, ont été mis en examen pour tentative de vol avec violence en bande organisée. Ils ont été incarcérés. Une source proche du dossier y voit l'illustration de la violence extrême de la criminalité organisée et évidemment l'absence de frontières pour ces malfaiteurs.
Il est 11h et bientôt 50 minutes sur Radio Rythme Bleu. Une nouvelle et dernière pause dans ce journal avant l'actualité sportive et ensuite ce seront les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Découvrez le système GE, l'un des meilleurs outils associatifs économico-sociaux reconnus en Nouvelle-Calédonie depuis 2017. Nous avons eu l'honneur d'accompagner plus de 1500 demandeurs d'emploi locaux dans leur parcours vers l'obtention d'un contrat de travail grâce à notre système GE. De plus, 150 entreprises locales ont fait le choix d'utiliser cet outil innovant pour dynamiser leurs activités. Si vous êtes gérant d'entreprise et souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter au 746 726. Pour les demandeurs d'emploi, nous vous invitons à composer le 30 77 27. Nous sommes là pour vous accompagner dans vos démarches. Nous serons ravis de vous accueillir dans notre bureau situé à Koné.
Propriétaire de Mitsubishi L200, Nissan NP300, iSix ou Qashqai, du 17 mars au 12 avril chez Calais Pneus PK4 et Koné, achetez 3 pneus Apollo, le 4e est offert ou profitez de 25% de remise. Offre valable sur dimension signalée, stock limité. Plus d'infos au 41 31 41 ou sur Facebook.
Tout le sport en 3 lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer par le football, évidemment. C'était ce matin la fin des huitièmes de finale, retour de la Ligue des Champions. Tous les regards étaient tournés tôt ce matin pour nous vers le stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq où Lille, Lionel Sabot, recevait les Allemands du Borussia Dortmund.
Et malheureusement, il n'y aura pas de deuxième club français en quart de finale de la Ligue des Champions. Vous le disiez, les Lillois recevaient Dortmund devant leur public au match aller. Rappelons que les deux équipes avaient fait match nul à un but partout. Si les hommes de Bruno Genesio ont très rapidement ouvert le score par Jonathan David, les Dogs ont perdu le fil de la rencontre au fil des minutes face à une équipe plus expérimentée qui a disputé ses grands matchs de Coupe d'Europe. On va rappeler que l'an dernier, Dortmund avait disputé la finale de la Ligue des Champions. Les Lillois se sont éteints progressivement et ce qui devait arriver est arrivé. Et comme on dit à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Le Borussia Dortmund s'est imposé 2-1 et se qualifie donc pour les quarts de finale. Écoutez la réaction d'Olivier Létan, c'est le président du LOSC.
Une très bonne première mi-temps finalement, ou une bonne première mi-temps dans le contenu où on est finalement assez peu en danger quand même, on réussit à marquer, on a une certaine maîtrise, on a perdu de la maîtrise en début de deuxième mi-temps et on s'est mis en danger finalement en perdant beaucoup de ballons, donc frustration, par contre il ne faut pas non plus oublier le parcours européen que nous avons réalisé, qui a commencé très tôt, il a commencé dès le 6 août contre Fenerbahçe. Donc il y a une vraie fierté par rapport à ça parce qu'on a donné beaucoup d'émotions à nos supporters, à notre communauté. Ils ont vibré, ils ont vécu des grands moments. Et puis un club ne se construit pas non plus en un claquement de doigts. Il faut une expérience au niveau européen, il faut le consolider. Et c'est vrai que ces deux dernières années, on a encore avancé, on a passé un cap. Donc ça, je trouve ça très intéressant et c'est quelque chose qu'il faut souligner et qui est positif.
Et certes, il y a la défaite ce matin pour les Lillois, mais les hommes de Bruno Genesio, en effet, auront fait un très très beau parcours dans cette Ligue des Champions. De leur côté, les joueurs de Dortmund affronteront le FC Barcelone en quart de finale.
Et il y avait trois autres matchs pour les huitièmes de finale retour de cette Ligue des Champions.
Oui, et on va prendre pour commencer la direction de Madrid où l'Atlético recevait le Real au match aller. Les joueurs du Real s'étaient imposés 2-1 et le match retour a été complètement fou. Les Colchoneros ont pris l'avantage devant leur public après seulement 28 secondes de jeu. Lors des 90 minutes du temps réglementaire, les actions ont été très nombreuses de part et d'autre. Vinicius, côté Real, a manqué un penalty et le score est resté à 1-0 jusqu'à l'issue du temps réglementaire. Les deux équipes ont donc joué la prolongation à l'issue des 30 minutes de temps en plus. Toujours 1-0 pour l'Atlético. Il a donc fallu passer par la séance des tirs au but pour départager les deux formations madrilènes. Une séance complètement hallucinante avec un pénalty transformé par Alvarez côté Atlético, mais finalement annulé après que les arbitres vidéo aient remarqué que le joueur qui a glissé au moment de sa frappe avait touché le ballon deux fois. C'est interdit par le règlement. Alors franchement, sur les images, même bien zoomées, c'est pas flagrant, mais toujours est-il que le tir au but a été invalidé. Le Real se dirigeait donc tranquille vers la victoire, mais voilà, la tentative de Vasquez côté Real, cette fois-ci, a été repoussée par le gardien de l'Atlético. Parade inutile, puisque dans la foulée, Llorente côté Atlético a également manqué son tir au but. Finalement, c'est Rudiger qui a donné la victoire finale au Real. Dans les autres matchs de la matinée, Aston Villa s'est imposé 3-0 sur le club de Bruges. Aston Villa qui rencontrera le PSG en quart de finale. Enfin, Arsenal, malgré un match nul, 2-2 devant le PSV Eindhoven, s'est qualifié. Les Gunners Il faut le préciser, c'était imposé 7-1 au match aller. C'est sûr, c'est plus facile. Un coup d'œil pour finir aux affiches des quarts de finale qui se joueront les 9 et 16 avril prochains. PSG, Aston Villa, Arsenal, Real Madrid, Barcelone, Dortmund et Bayern Munich, Inter Milan.
Ça promet du spectacle. Du spectacle, il y en a eu aussi en cyclisme la nuit dernière lors de la 4e étape du Paris-Nice, 163 km entre Vichy et la loge des gardes dans l'Allier.
Ouais, une étape qui a été très agitée en effet. La course a dû être neutralisée pendant plusieurs kilomètres suite à un orage de grêle qui s'est abattu sur le peloton. Les coureurs ont roulé très lentement derrière la voiture du directeur de course sur une chaussée totalement détrempée pendant plusieurs kilomètres. La course a finalement été relancée à 28 km de l'arrivée. Au final, c'est le Portugais João Almeida de la formation Team Emirates qui s'est imposé. Il a devancé d'une seconde le Danois Jonas Vingegaard de la formation Visma Leasebike et de 2 secondes le Danois Mathias Selmose Jensen de la formation Lidl Trek. Au classement général, c'est le Danois Vingegaard qui fait la bonne opération du jour puisqu'il endosse le maillot jaune de leader. Demain, 5e étape, 203 km 300 entre Saint-Just en Chevalette dans la Loire et la Côte-Saint-André dans l'Isère.
La Winnie Berlioz, j'ai bien entendu ce matin. On termine avec le sport sur le territoire, Lionel Sabot, avec la 4e et dernière journée des matchs de poule du tournoi international féminin de cricket à Nouméa. L'équipe de France affrontait les Fidji ce matin et c'est une nouvelle fois inclinée.
Et ça n'a pas été fantastique dans la petite finale avant l'heure puisque les deux équipes ont perdu. Elles avaient perdu leurs 2 premiers matchs qu'elles avaient disputés dans le tournoi contre Vanuatu et les Samoa. Ce sont les Fidjiennes qui ont gagné le toss. Elles ont décidé de commencer la première manche au batting et ont réussi à marquer 115 points. Lors de la seconde manche, l'équipe de France, composée, rappelons-le, en intégralité de joueuses calédoniennes, devait donc marquer 116 points pour s'imposer. Sacré défi pour les Françaises qui n'avaient marqué que 45 points contre le Vanuatu et 32 contre les Samoa. Malheureusement, et malgré une belle prestation, elles n'ont réussi à marquer que 59 points. Les Françaises s'inclinent donc 115 à 59. Le tournoi reprendra demain à 8h30 avec la petite finale, celle pour la 3e place qui opposera de nouveau la France aux Fidji. Et puis il y aura la finale demain après-midi à 13h30 entre le Vanuatu et les Samoa.
Merci Lionel.